RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui nous allons parler de préhistoire, pourquoi les espèces humaines ont-elles évolué, pourquoi Homo erectus est-il sorti d'Afrique, qui a inventé le feu, quand et comment Sapiens, notre aïeul, a-t-il conquis la Terre, pourquoi Néandertal, notre cousin, a-t-il disparu, comment étaient organisées les sociétés préhistoriques, continuons-nous à évoluer. On le voit, les questions sur la préhistoire sont aussi des questions sur nous-mêmes. Avec notre invité aujourd'hui, nous allons tenter d'y répondre. Notre invité est donc Jean-Paul Demoule. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir rejoint ce studio, Jean-Paul Demoule. Vous êtes archéologue, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1. Vous êtes également membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages. Et votre dernier livre s'intitule « La préhistoire en 100 questions ». Il est publié aux éditions Talendier. Et donc au fil de 100 questions très claires et en vous appuyant sur les recherches les plus récentes, vous nous racontez l'épopée des nombreuses espèces humaines successives, leurs migrations, leurs mélanges. Vous décrivez leurs inventions, les outils, le feu, leurs découvertes, l'art, l'alcool, les armes, la roue, etc. Leur alimentation, leurs vêtements, leur sexualité, leurs croyances, leurs maladies, leurs organisations sociales. Avec vous, nous allons voir comment les humains, en inventant l'agriculture au néolithique, ont fait exploser leur nombre. Et tout cela a débouché sur les premières villes, sur l'écriture. Et tout cela a inauguré un nouveau mode de vie dont nous sommes aujourd'hui peut-être à l'accomplissement. Nous le verrons tout à l'heure. Voilà, le thème de cette édition des Racines du Présent, bien c'est simple. Les questions sur la préhistoire sont aussi des questions sur nous-mêmes.
Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
Les Racines du Présent, à notre programme cette semaine, la préhistoire, et plus précisément la préhistoire en 100 questions, qui est un livre absolument passionnant aux éditions Talendier, signé Jean-Paul Demoule, donc qui est parmi nous. Alors Jean-Paul Demoule, la toute première question qu'on se pose avant d'aborder nos ancêtres, nos aïeux préhistoriques, c'est tout d'abord comment peut-on dater un site archéologique? Comment êtes-vous en mesure de nous dire ça c'est plutôt du 30 000 ans et ça c'est plutôt du 300 000 ans? Jean-Paul Demoule.
On a plusieurs méthodes maintenant qui toutes reposent sur le fait que un élément, un matériau va se dégrader de manière régulière dans le temps. Par exemple, la méthode la plus connue, qui est celle du carbone 14, mais qui ne permet pas de remonter au-delà de 50 000 ans. Nous sommes faits de carbone et d'eau, comme tous les êtres vivants. À la mort, le carbone, une partie de ce carbone est radioactif globalement, de par les échanges avec l'atmosphère. Et quand nous mourons, cette radioactivité commence à décroître de manière très régulière, de moitié à peu près tous les 5 000 ans.
Donc, il suffit de moitié tous les 5 000 ans jusqu'à 50 000 ans, c'est ça?
Oui, à partir de 50 000 ans, c'est plus décelable dans les
méthodes
actuelles. Donc,
nous laissons des traces.
Bien sûr, voilà. Oui, heureusement.
Il y a aussi la datation par le bois, qu'on appelle, je crois, la dendrochronologie, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est que tout le monde s'est amusé à regarder dans un tronc d'arbre coupé, on voit les cernes, etc. Chaque cerne correspond à une année. Et c'est un peu comme un code en morse. Il y a des cercles plus ou moins épais suivant que l'année a été plus ou moins arrosée. Et comme ça, si on arrive à juxtaposer, à mettre bout à bout un certain nombre d'arbres en partant du présent, on arrive à remonter comme ça de proche en proche jusqu'il y a à peu près 6000 ans. Et là, l'avantage, c'est que c'est précis à une année près.
Mais seulement jusqu'à 6000 ans.
Oui, c'est parce qu'après, on dispose exceptionnellement
Alors, pour
de,
les
de
sites,
bois.
Alors, pour les sites les plus anciens ou pour les découvertes les plus anciennes, comment fait-on?
Il y a encore d'autres méthodes, ce qu'on appelle l'uranium-thorium, par exemple. L'uranium se dégrade progressivement en thorium. Ça permet notamment de dater ce qu'on appelle la calcite, le calcaire qui coule et qui se fiche, par exemple, dans les grottes et qui va couler au-dessus d'une une peinture préhistorique, donc on sait qu'elle est forcément antérieure à ça. Un exemple célèbre, c'est il y a 3-4 ans, la grotte de Bruniquel dans le Tarn et Garonne, où on a trouvé des structures circulaires faites de stalagmites cassées. Et on ne savait pas les dater parce que justement, ça avait plus de 50 000 ans par le carbone 14. Et comme cette méthode a été développée, elle a permis de savoir que ces stalagmites avaient été cassées il y a 176 000 ans et donc il n'y avait pas encore de sapiens à cette époque. Et donc, c'était forcément Néandertal qui s'était amusé, entre guillemets, à fabriquer ces sortes de structures de 3 mètres à peu près de diamètre qui n'ont aucun usage pratique.
Alors, donc, sait-on pour quelle raison est-ce que l'enquête que vous menez peut vous permettre de dégager des hypothèses?
Nous, quand on, les archéologues, quand on n'a pas d'explication, on dit toujours que c'est rituel. Ce qui
est déjà une explication.
Voilà, c'est ça. Oui. Mais qui ne mange pas de pain d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a aucune utilité pratique. Donc, ça avait forcément une fonction symbolique.
Oui, laquelle... ça n'est pas le hasard non plus.
Non. Pas, on ne s'amuse pas à casser.
Il y a une volonté.
De fabriquer assez profondément dans cette grotte, donc ce qui prouve aussi qu'ils étaient capables d'aller loin, donc sans doute de s'éclairer et que c'était pas seulement ça.
On voit des hypothèses qui en entraînent d'autres et qui des raisonnements qui multiplient les conséquences. Alors autre question, on comprend bien en vous écoutant comment on peut connaître les dates, mais comment peut-on connaître les climats et les environnements? Jean-Paul Demoule.
Les climats et les environnements vont avoir à chaque fois un effet. Par exemple, ça va avoir un effet direct sur la végétation. Mm-hmm. Or, les pollens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont microscopiques. On les voit qu'au microscope, mais sont extrêmement résistants. Ces espèces de coques, si bien qu'ils peuvent se conserver pendant extrêmement longtemps. Par ailleurs, il y a aussi on peut faire des carottages dans la glace des pôles qui emprisonnent à chaque instant dans des bulles l'atmosphère à un moment donné. Donc on peut reconstituer sur le très long terme tous ces climats.
Alors vous écrivez, Jean-Paul Demoule, dans votre livre passionnant dont je rappelle le titre, La Préhistoire en 100 questions, vous écrivez à propos du climat justement, depuis 12 000 ans, nous vivons dans une période interglaciaire. Et vous poursuivez, il est probable que la Terre connaîtra à nouveau une période glaciaire d'ici 3 ou 4 000 ans. Je pensais qu'on était plutôt dans le réchauffement climatique, Jean-Paul Demoule.
Oui, pendant encore 2, 3, 4 000 ans à peu près. Mais c'est la Terre connaît des alternances de périodes froides et d'interglaciaires comme celui que nous vivons.
Ça, c'est de toute éternité, si j'ose dire.
C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, du nom d'un savant serbe qui l'a mis en évidence au 19e siècle, et c'est des oscillations de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Donc le dernier interglaciaire a duré effectivement 15 000 ans, entre moins 130 000 et moins 115 000 ans. Et pendant de moins 115 000 ans à moins 10 000 ans, on était dans une période glaciaire, effectivement la dernière, qu'on appelle glaciation de Würm quand on est dans les Alpes. Et logiquement, on devrait repartir un jour dans une période glaciaire.
D'ici 3 ou 4 000 ans.
Voilà, mais on ne sait pas dans quel état...
On ne sait pas dans quel état on va y arriver. Peut-être qu'on va... On va y arriver complètement cramé.
Et pendant ces périodes glaciaires, les eaux se figent dans les glaces du pôle. Donc le niveau de la mer descend de 150 mètres à peu près. Donc là,
150 mètres, oui.
On sait que dans les décennies qui viennent, la Camargue, la Hollande, Bangladesh vont disparaître avec la montée des eaux. Mais on les redécouvrira dans 2-3 000 ans.
Voilà, et donc ça sera à vos successeurs archéologues.
Voilà, qui seront très contents.
Qui seront très contents de découvrir les traces de nos vies. Alors venons-en donc à l'espèce humaine, ou plutôt aux espèces humaines, si je vous ai bien lu, Jean-Paul Demoule, vous parlez d'un buissonnement permanent d'espèces. Que voulez-vous dire?
Oui, on a tous vu la longue file indienne avec le singe qui se relève petit à petit et ça finit avec un homme blanc et barbu.
C'est ce qu'on a tous plus ou moins en tête.
Voilà,
et en fait, non.
Et en fait, plus on avance, et surtout grâce à la génétique et à la possibilité depuis quelques années de mettre en évidence, de retrouver de l'ADN très ancien sur les ossements humains. Mmh. On a pu mettre en évidence à la fois qu'il y avait eu beaucoup plus d'espèces humaines qu'on croyait, parce que des fois on a juste un morceau d'os, bon, on sait que c'est humain, mais sans plus. Oui. Maintenant, avec l'ADN, par exemple, en 2010, on a découvert qu'en Asie, en parallèle à Néandertal qui vivait essentiellement en Europe et au Proche-Orient, il y avait une autre espèce qu'on appelle les Denisoviens, du nom de la grotte de Denisova en Russie. Et ça, c'était uniquement avec quelques petits bouts d'os qui étaient incompatibles avec Homo sapiens ou avec Néandertal. Et encore plus récemment, il y a 2-3 ans, dans l'île de Luçon, dans les Philippines, on a découvert un Homo luzonensis qui a été qu'on a pu trouver uniquement grâce à son ADN.
Oui.
Et en plus, on sait de plus en plus que toutes ces espèces n'ont cessé de se croiser
au sens propre.
Au sens propre, oui, c'est effectivement. Que vous et moi, on a, et nos auditrices et auditeurs, on a quelques pourcentages d'hommes de Néandertal. Oui. De femmes de Néandertal.
2 à 4%, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, expliquez-nous, Jean-Paul Demolle, vous évoquez ces diverses espèces humaines, si je vous ai bien compris, Néandertal, Sapiens, Denisovia, Lussoniensis. Qu'avaient-ils en commun et qu'avaient-ils de différent?
Il y a une évolution très progressive qui est le fait de ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire que à chaque reproduction, le nouveau-né a un certain nombre de traits de ses parents, mais il en a d'autres, certains qui sont avantageux, d'autres désavantageux, comme les maladies génétiques. Et donc, ceux qui peuvent être avantageux, comme avoir un cerveau de plus en plus complexe, vont faire que ceux-là vont effectivement
prédominer,
ouais. Vivre plus longtemps, etc. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sélection sexuelle, qui est plus culturelle, c'est-à-dire qui est le choix de tel ou tel partenaire pour les accouplements. Donc tout ça fait qu'il y a une évolution progressive qui part des primates il y a 10 millions d'années. On se sépare des autres primates progressivement de par effectivement la sélection naturelle.
Mais alors, où se situe Sapiens? Est-ce que nous nous situons au sommet d'une certaine forme de pyramide buissonnante ou bien est-ce que nous sommes à part, Jean-Paul Demoule?
Au sommet, dans la mesure où on a éliminé, effectivement, comme vous le disiez d'entrée de jeu, on a éliminé toutes les autres dans des conditions qui ne sont pas encore totalement claires. Mais disons que jusqu'à il y a 2 millions d'années, il y avait une série d'espèces qu'on groupe sous le terme d'Homo erectus.
Homme debout.
Voilà, c'est ça. Qui apparaît en Afrique, mais qui va se diffuser dans une grande partie de l'Eurasie. C'est ce qu'on appelle aussi le pithécanthrope ou le synanthrope, etc. Et ces Homo erectus continuent d'évoluer. Il y a 300 000 ans, en Europe apparaît. Ceux qui sont en Europe débouchent sur Néandertal, donc avec un cerveau encore plus complexe. Sont en Asie sur Denisova, ceux qui sont restés en Afrique sur Sapiens. Et Sapiens, lui, à son tour, enfin une partie des Sapiens, il y a entre 200 000 et 100 000 ans, vont à leur tour sortir d'Afrique. Et petit à petit, on constate qu'à la fin, il y a 30 000 ans, il n'y a plus que des Sapiens. Les autres ont disparu.
Ils ont disparu. Donc, si je vous entends bien, Jean-Paul Demoule, vous nous confirmez que le berceau de l'humanité, c'est bien l'Afrique?
Oui, bien sûr. C'est l'Afrique, simplement, il n'y a pas un berceau.
Voilà, il n'y a pas un lieu. C'est un berceau à roulettes, comme disait, je crois, Teilhard de Chardin,
voilà, c'est ça.
Voilà,
exactement.
Donc, c'est l'Afrique. Nous venons tous d'Afrique, mais en même temps, vous nous rappelez, Jean-Paul Demoule, dans votre livre, que, à l'époque, ces Homo erectus n'étaient que quelques dizaines de milliers sur 30 millions de kilomètres carrés.
Oui, bien sûr.
Il y avait très, très peu de monde sur Terre et très, très peu de monde en Afrique. Soit, dites-vous, vous avez fait les statistiques, un humain pour 300 kilomètres carrés. Et donc, cette sortie d'Afrique s'est faite sur des dizaines de millénaires, très lentement et de façon presque insoupçonnée, c'est ça?
Oui, bien sûr. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils sortaient d'Afrique. C'est à chaque génération, certains individus sont, par curiosité ou par des facilités d'environnement, etc., sont allés un petit peu plus loin. Mais effectivement, ça met des dizaines de milliers d'années d'aller d'Afrique jusqu'en Indonésie.
Surtout à pied.
Oui, surtout à pied.
Alors, il y a quand même la question qui se pose, c'est la question de la couleur de peau.
Oui.
Nos ancêtres étaient donc sous un climat africain, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, bien sûr.
Donc leur peau était noire.
Oui.
Et comment la peau s'est-elle éclaircie alors au fil du temps?
Quand vous avez une peau sombre et que vous êtes dans un endroit très ensoleillé, vous avez intérêt à avoir une peau sombre parce que ça vous protège notamment des risques de cancer de la peau, etc. En revanche, si vous allez très au nord où l'ensoleillement est beaucoup plus faible, vous avez besoin de vitamines et de soleil, là, à ce moment-là, plus votre peau est claire, plus vous allez être avantagé. D'ailleurs, si on regarde la carte des populations traditionnelles avant tous les mouvements de colonisation, eh bien, on voit que du sud au nord, on a des peaux foncées qui sont pas seulement en Afrique, mais dans le sud de l'Inde, chez les Papous de Nouvelle-Guinée, les aborigènes australiens, etc. Et plus, toujours le jeu de la sélection naturelle, voilà. Et plus on va remonter vers le nord, plus ceux qui auront la peau claire vont être avantagés, donc au fil des générations. Voilà.
Façon très très lente, oui. Si je vous entends bien.
C'est très lent parce qu'encore en Angleterre, les derniers chasseurs-cueilleurs, il y a 10 000 ans, avaient la peau noire, mais quand même les yeux clairs.
Bon, alors on va en venir à un moment très important, qui est le moment de la découverte du feu. Et je vais même avoir la prétention de vous le faire découvrir en direct. J'ai retrouvé un reportage qui nous explique la découverte du feu. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais avant cela, il y a ce moment, Jean-Paul de Moule, où le premier homme ou les premiers hommes, je ne sais pas comment dire, se sont redressés. La station debout a marqué une révolution dans notre histoire humaine, Jean-Paul de Moule.
Ça s'est fait très progressivement parce qu'on a des exemples de primates très anciens, même il y a 13-14 millions d'années, qui avaient déjà la station debout, mais qui était capable de la voir. Et les primates peuvent des fois se redresser, mais comme ils sont souvent dans un milieu arboricole, ils ont aussi besoin de grimper dans les arbres. Le fait de se redresser progressivement va avoir des conséquences parce que ça libère la main. Donc il peut faire des tas de choses et notamment de manière défensive. Donc le museau et les dents qui chez les primates a une fonction défensive très importante et d'outils va se réduire petit à petit et le fait d'avoir la tête redressée va permettre aussi au cerveau de grandir.
Donc c'est l'ensemble de notre écosystème humain qui est modifié.
Très progressivement, évidemment.
Ça a pris combien de temps?
Ça a pris des centaines de milliers d'années.
Oui, c'est ça, des centaines de milliers d'années.
Pour le moins. Alors, ça n'a pas que des avantages parce que quand on a un cerveau trop complexe, eh bien, on a aussi notre part obscure, l'inconscient, etc. Et deuxièmement, avec une tête plus grosse, pour que l'enfant puisse naître, eh bien, d'une part, ça va créer beaucoup d'accidents d'accouchement qui sont quand même très nombreux chez les humaines, plus que chez d'autres espèces. Et ça va obliger l'enfant à naître pas fini, si j'ose dire. Un poulain,
il est tout de suite sur ses quatre jambes.
Tandis qu'un bébé humain, il mettra 2 ans pour faire la même chose.
Et c'est même, dit-on, sauf erreur de ma part, la singularité de l'espèce humaine.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr. Il y a des espèces comme les chiens, les chats, comme vous savez, ils sont pas, ils gambadent pas tout de suite, mais quand même relativement vite. C'est chez les humains que ça prend le plus de temps.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, Jean-Paul de Moule, à cette question fondamentale de l'invention du feu. Alors pour vous faire réagir, je vais vous faire écouter un extrait d'un documentaire que beaucoup d'entre nous ont regardé. C'était en 2001, un documentaire de Jacques Malaterre. Et Jacques Malaterre met en scène la découverte du feu. Alors soyons attentifs, le feu est qualifié par nos prédécesseurs humains. Il est ici mis en scène comme étant un animal. Écoutez bien cette découverte du feu. Ensuite, vous nous direz ce que vous en pensez, Jean-Paul de Moule.
L'humanité est sur le point de faire un bond gigantesque. Et cette fois, l'homme est lui-même à l'origine de la révolution qui s'annonce. Il va faire une découverte qui va changer sa vie. La chose est arrivée par hasard. un matin où l'on allait chasser. Le borgne était parti devant. Le borgne est un fouineur, toujours prêt à mettre son nez là où il ne devrait pas. C'est d'ailleurs ce qui lui a coûté son œil. On ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il a voulu s'approcher de cet animal. Tout le monde sait qu'il ne faut pas. Mais comme c'était un petit, il a quand même voulu voir de plus près s'il pouvait le tuer. Quand le clan est arrivé, on s'est dit qu'il avait perdu la tête. De mémoire d'homme, cet animal n'avait causé que des ravages. Il était dangereux et insaisissable. Ce qui est arrivé ensuite est à n'y rien comprendre. Après qu'il l'ait blessé, l'animal l'a suivi. Ou plutôt une partie plus petite de l'animal. On a essayé de le prévenir, mais il ne l'a pas vu tout de suite. Et puis, il l'a tué. Facilement. Trop facilement. Il y avait là un mystère. Sans prévenir, le sage est allé à son tour voir le gros animal qui, lui, n'était toujours pas mort. Ça nous a étonnés, car le sage est d'habitude très prudent. Il a été le premier à comprendre. L'animal n'était pas si dangereux. On pouvait le garder au bout d'une lance. Mais si on l'approchait de trop près, il piquait. Il y avait aussi une odeur qui restait sur les mains quand on le touchait. C'est le premier nom qu'on lui a donné.
Voilà, c'était vu par Jean-Paul Malaterre en 2001 dans l'excellent documentaire qui s'intitulait L'Odyssée de l'espèce, et bien la découverte du feu. Alors vous l'avez entendu, Jean-Paul Demoule, vous-même vous êtes archéologue préhistorien, vous publiez aux éditions Talendier ce livre intitulé La préhistoire en 100 questions. Alors vous l'avez compris, ce qu'on appelle l'animal là, c'est un reste de feu. La foudre est tombée sur un arbre, et puis voilà, c'est nos prédécesseurs, nos ancêtres, nos aïeux essayent d'apprivoiser, et finalement ils comprennent qu'on peut conserver ce feu. Est-ce que ça a pu se passer comme ça, Jean-Paul Demoule? C'est la question que nous nous posons tous.
Oui, je pense que le langage de ces hommes préhistoriques devait être probablement plus complexe que ce qu'on a.
Là, c'est un peu des borborygmes.
Voilà, c'est ça. Mais c'est une autre question. Les plus anciennes traces de feu remontent effectivement à Erectus en Afrique, entre 1 million et 1 500 000 ans.
Ah oui, c'est très très ancien.
Oui. En France, on a des foyers vraiment organisés entre 300 000 et 400 000 ans, notamment en Bretagne, au Ménez-Brégand. Là, on est sûr qu'on a un foyer. Donc, il s'agit
300 000 ans.
Plus de... C'est pas le fait, effectivement, de croiser du feu, mais il est probable, en plus, que dès qu'ils ont pu le récupérer, ils ont su le faire, parce que c'est pas très compliqué. C'est pas en frottant des silex, comme on l'apprenait jadis, mais en frottant plutôt deux bouts de bois l'un contre l'autre.
Et ça marche.
Et ça marche.
Vous avez essayé Jean-Paul Demoule.
Mais en tout cas, c'est pas l'hypothèse du roman La Guerre du Feu, pas le film, mais le roman, qui pensait qu'on le gardait dans des petites cages précieusement, et que si on le laissait s'éteindre, d'atteindre cette fichue.
Voilà. Assez vite, on a su le provoquer.
Oui, très.
Alors,
très
qu'est-ce que ça a changé dans la vie de nos aïeux il y a 300 000 ans?
Ça change plein de choses. Mm-hmm. C'est la première atteinte à l'environnement, en fait. Hein, parce que, bon, là,
vous voulez dire le premier apprivoisement de l'environnement, ça voulait dire?
Oui, si on veut, puisque les chasseurs-cueilleurs, y compris récents, qui ont pu être observés par l'ethnologie, sont capables de mettre le feu justement pour dégager des espaces. Et puis surtout, c'est l'alimentation. Mmh. On estime que la viande cuite, en particulier, est plus digeste et au fil du temps a permis à l'intestin de se rétrécir. Et puis c'est aussi les défenses contre les animaux sauvages, puisque c'est la seule espèce... Les humains sont la seule espèce qui a domestiqué le feu, donc c'est effectivement extrêmement important.
On peut se chauffer aussi.
Oui, bien sûr.
On peut fumer la viande aussi.
Oui.
On peut rendre des outils plus durs.
Oui.
Donc ça a été une modification absolue. Et juste une précision, c'était déjà Sapiens ou pas encore Sapiens?
Non, c'est Homo erectus.
C'est bien avant.
Quand on est entre 1 million et 1,5 million, on est chez les erectus. Et le foyer que je citais tout à l'heure en Bretagne, c'est encore des erectus qui sont en transition vers Néandertal.
Juste une précision, peut-on... évaluer la durée de vie, l'espérance de vie de nos ancêtres qui, à cette époque-là, ont domestiqué le feu.
C'est difficile parce qu'il faut toujours avoir une référence quand on estime l'âge d'un squelette. En général, on l'estime par rapport à des squelettes dont on connaît l'âge. Mais on estime en général que c'est pas très longtemps, que c'est entre 30 et 40 ans maximum en comparant avec les primates.
Les racines du présent. RCF.
Aujourd'hui, les racines du présent remontent à il y a très très longtemps, puisque nous évoquons la préhistoire, plus précisément la préhistoire en 100 questions, avec notre invité Jean-Paul Demoule, qui publie donc ce livre aux éditions Talendier. Alors nous venons de voir comment et à quelle occasion nos prédécesseurs Erectus ou Erecti ont pu domestiquer le feu, l'apprivoiser, et puis ensuite le provoquer. Alors, à plusieurs reprises, vous avez évoqué Néandertal, Jean-Paul Demoule. Je pense qu'il faut apporter quelques précisions là-dessus. Néandertal, c'était un autre être humain. Nous avons vécu en même temps sur Terre, Sapiens et lui, c'est ça?
Oui, mais il y a 100 000 ans, il y avait 5 ou 6 espèces humaines dans différents endroits du monde qui étaient contemporaines. Mmh. Et en plus, certaines se sont croisées. Donc, nous nous sommes croisés avec Néandertal, hein, donc on a quelques gènes et on a accusé d'ailleurs certains gènes néandertaliens de notre susceptibilité au Covid-19.
Ah oui,
hein,
Et ça a pu être vérifié?
C'est une hypothèse sur laquelle on
c'est
travaille.
C'est une hypothèse.
Moi, je
ne
suis pas
d'accord.
Généticien. De même, l'espèce parallèle à Sapiens et Néandertal en Asie, c'est Denisova. Mm-hmm. Et on a retrouvé des gènes denisoviens chez les Inuits ou les Tibétains ou les Papous. Et c'est notamment des gènes qui permettent une meilleure adaptation au froid et à l'altitude. Et par ailleurs... nous nous sommes croisés avec Néandertal et Denisova, donc, et Néandertal et Denisova se sont également croisés entre eux, donc c'est pour ça que c'est pas une lignée,
d'accord,
mais c'est effectivement ce buissonnement permanent.
Alors il n'en reste pas moins que nous, les sapiens, nous sommes les uniques survivants. Pourquoi Néandertal a-t-il disparu? Est-ce qu'il y a eu une guerre mondiale entre sapiens et Néandertal, Jean-Paul Demoule?
Pour l'instant, on n'a aucune trace avérée de massacre. Donc, on a supposé, puisque c'est hélas à la mode, d'éventuelles épidémies apportées par Sapiens, auxquelles Sapiens lui-même aurait été immunisé, comme les Européens ont amené la rougeole dans les Amériques, par exemple. On a remarqué aussi que les Néandertaliens sont peu nombreux, et justement, de par l'ADN, étaient relativement isolés les uns des autres. Donc, en fait, avait probablement moins de capacité à résister et d'adaptation. Ils ont fini par disparaître, mais on n'a pas d'explication définitive.
D'accord. Ou pas encore, peut-être.
Oui, pas
alors,
encore.
Venons-en à une époque quasiment contemporaine, puisque en vous suivant, en conversant avec vous, Jean-Paul Demoule, nous venons de très très loin. Notre territoire, le territoire français, cet extrême occident de l'Europe, a été colonisé, entre guillemets, par Sapiens il y a seulement 40 000 ans, c'est bien ça ?
Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, Sapiens émerge progressivement il y a à peu près 300 000 ans en Afrique. Et donc, certains partent et, ce qui est un peu vexant pour nous, ils ne se précipitent pas vers l'Europe et oui. la France, mais ils restent dans des latitudes chaudes mmh. et donc ils partent vers l'Inde et ils arrivent en Australie vers 60 000 ans à peu
ah
près.
Ah oui, avant d'arriver chez nous.
20 000 ans avant d'arriver en Europe, ce qui suppose aussi qu'ils ont des capacités de navigation, parce que même pendant les périodes glaciaires oui. où le niveau des mers est beaucoup plus bas, il y avait quand même des bras de mer à traverser.
Donc de navigation, d'orientation,
oui, absolument, oui.
d'anticipation. Oui. De fixation du cap, etc.
Bah, de toute façon, ils avaient les mêmes capacités que nous.
C'est ça. Oui. Au fond, c'était les mêmes hommes.
Bah oui,
il ne faut pas oublier ça.
Bah oui,
avec le même
sûr.
Cerveau.
Voilà, c'est ça.
C'est absolument fascinant, Jean-Paul Demoule. Alors, nous sommes arrivés en France il y a 30 000 ans, c'est ça ?
Oui, 40 000 ans.
30, 40 000. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y avait rien avant sur notre territoire ?
Il y avait les Néandertaliens, justement, qui étaient là. Et puis, toutes sortes d'eau. Des mammouths, des aurochs.
D'accord. Alors, qui étaient nos ancêtres, donc comment s'habillaient-ils ? Vous évoquez des traces de chaussures.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut trouver des traces de chaussures ?
Dans les grottes, le sol humide des grottes, oui. On a de temps en temps des traces, effectivement, qui ne sont pas des traces de pieds nus, mais qui sont des traces de chaussures. Donc, on est sûr. Il ne faut pas les imaginer vêtus de peau de bête, oui. Comme dans les dessins animés. Il faut plutôt penser ils inventent, il y a à peu près 20 000 ans, l'aiguille à coudre, quoi, l'aiguille avec un trou, l'aiguille à chat.
Il y a 20 000 ans, oui.
Il faut plutôt les imaginer comme les Indiens des plaines en Amérique oui. du Nord, donc des habits près du corps en cuir. On a des outils dont on peut montrer en regardant au microscope les traces d'usage qui servaient à tanner le cuir. Ils ont des aiguilles, ils ont des outils tranchants, donc ils avaient des habits.
Il n'y a pas encore de tissu quand même.
Non, parce que pour le textile, il va falloir l'agriculture, justement.
Alors, donc, ce sont toujours des chasseurs-cueilleurs, oui. c'est ça ? Donc, ils sont nomades, par essence, c'est ça ?
Ils
se déplacent de terroir en terroir.
La plupart sont nomades en fonction des ressources saisonnières de certaines plantes ou du déplacement des animaux, les rennes, par exemple, qui migrent. Mais dans certains cas, notamment liés à des ressources aquatiques, poissons, coquillages, mammifères marins, ils peuvent se sédentariser. Et l'ethnologie nous montre aussi des exemples de chasseurs-cueilleurs sédentaires, notamment sur la côte nord-ouest des États-Unis.
Alors, rappelez-nous, pour bien nous fixer dans nos têtes le paysage, quel était le climat sur ce qui est aujourd'hui le territoire français il y a 30 ou 40 000 ans ?
Et il faisait très froid.
Oui.
Les glaciers recouvrent tout le nord de l'Europe, pratiquement jusqu'à la Belgique. Donc la France, il faut imaginer un paysage de steppe, donc pas d'arbres, sont parcourus par des troupeaux de rennes, de mammouths, d'orques, de chevaux. Et donc il fait froid. Et en revanche, comme l'eau terrestre est dans les glaces du pôle, la mer est beaucoup plus basse, 150 mètres plus basse, si bien que l'entrée, par exemple, de la grotte Cosquer près de Marseille
était à l'air libre.
Elle était à l'air libre, alors que maintenant elle est à 40 mètres de profondeur.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, nos prédécesseurs avaient le même cerveau que nous.
Oui.
Alors donc, que peut-on dire de leur psychisme ? Quelles étaient leurs croyances ? Pratiquaient-ils des rites funéraires ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Jean-Paul Demoule ?
Les rites funéraires sont attestés dès les derniers Erectus. On a une grotte en Espagne, dans le nord de l'Espagne, à Tapuerca, où on a déposé les morts successivement au fur et à mesure des décès. Et Néandertal, lui, il creuse vraiment des tombes. Donc ça suppose forcément un certain rapport avec l'au-delà, avec avec le surnaturel. Dès cette époque-là, on a même fait pour une espèce humaine pas encore très bien connue qu'on appelle Homo naledi, qui n'est présente qu'en Afrique du Sud, mais aussi on déposait les morts au fur et à mesure des décès.
S'agit-il là, Jean-Paul de Moule, d'une singularité de l'espèce humaine, cette attention portée aux morts?
Oui, certainement, parce que quand on voit les autres animaux, si chez les primates, donc si on prend les plus proches, il y a quelqu'un qui meurt, et ils sont étonnés, ils essaient de le faire bouger, enfin, ils regardent, etc. Et puis, à la fin, ils s'en désintéressent et ils passent à autre chose. Donc ça, c'est certainement propre aux humains,
ça.
Et ça suppose aussi une sorte de sentiment du groupe et de proximité qui n'est pas attestée chez les animaux.
C'est une singularité humaine. Alors du côté des croyances, que peut-on dire?
Ce qu'on remarque, c'est qu'à partir d'il y a 40 000 ans au moins, ils commencent à représenter, à dessiner. Et ils représentent en particulier, en très grande majorité, des animaux. Ça veut dire qu'ils se pensent, comme il est immergé dans la nature, ça veut dire que les humains se pensent comme une espèce animale parmi d'autres. Ils se pensent à travers les animaux et est attesté chez beaucoup de populations traditionnelles, ce qu'on appelle le totémisme, c'est-à-dire le fait de descendre d'un ancêtre mythique qui est souvent un animal. Donc on pense qu'ils exprimaient comme ça dans leur par ces dessins leur représentation sans doute du clan, du groupe, de l'ascendance, etc.
C'est ce qu'on appelle le totémisme.
C'est ça. Alors on a parfois supposé qu'ils pratiquaient ce qu'on appelle le chamanisme,
dont on reparle beaucoup ces temps-ci.
Oui, c'est ça, qui est assez à la mode.
Oui.
L'idée que ce qui est attesté dans les populations sibériennes, des individus particuliers, les chamans sont capables de voyager dans l'espace, chez les morts, etc.
Et d'être en contact avec des puissances.
Voilà. Et ça mange pas de pain de le supposer, mais là, ça demanderait vraiment d'être étayé, si vous voulez, de ce point de vue-là. Mais de toute façon, on connaît aucune société humaine qui n'ait pas des rapports avec l'au-delà, le surnaturel.
Ça aussi, c'est une spécificité humaine.
Certainement. Oui. Enfin, c'est difficile de savoir ce que pensent les chimpanzés, mais on a quand même...
Certains ont essayé.
Voilà, c'est ça.
Mais là, il y a quelque chose de spécifiquement humain.
Oui, c'est certain, oui.
Si je vous ai bien lu, Jean-Paul de Moule, vous évoquez des bâtiments construits voués au culte. Ça serait à quelle époque?
C'est comme ça qu'on interprète les grottes, déjà, qui sont pas construites, qui sont des cavités naturelles, mais on les interprète comme des sanctuaires, puisqu'en général, ils vivaient pas dans les grottes.
C'était surtout, pas des lieux d'habitation.
Ou seulement le porche des grottes, mais ils vivaient dans des tentes ou des tipis, dont on a maintenant les traces avec le progrès des techniques de fouilles. Mais juste à la fin au moment où le climat se réchauffe, justement, on a ce qu'on considère comme les premiers temples de l'humanité sur le site de Göbekli Tepe, dans le sud de la Turquie.
À quelle époque, donc?
On est entre moins 10 000 et moins 9 000. Et on a des chasseurs-cueilleurs qui, effectivement, ont construit des grands bâtiments circulaires en pierre sèche dans lesquels ils ont inséré des grandes dalles en calcaire qui font entre 3 et 5 mètres de haut, sur lesquelles sont représentés des animaux et qui n'ont visiblement aucune fonction d'habitat. Il n'y a aucune trace de cuisine, etc., foyer à l'intérieur. Et régulièrement, ils les abandonnaient en les remplissant entièrement de terre. Et on a Göbekli Tepe, c'est le site qui a été fouillé, mais on a 4 ou 5 sites équivalents à chaque fois à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Donc on a toutes les raisons de penser que c'est effectivement des bâtiments voués à des cultes.
Est-ce que c'est du même ordre que ce qu'on a trouvé, par exemple, dans le golfe du Morbihan? Je pense au tumulus de Gavrinis ou ce type de,
de
pierres disposées.
Oui. Non, ça c'est beaucoup plus récent. Ah, oui. C'est ce qu'on appelle le mégalithisme. Ça apparaît à partir de 5000, 4500 ans après.
C'est une forme plus aboutie.
Et c'est des monuments funéraires, cette fois. C'est le principe de la pyramide égyptienne, mais de 3000 ans avant, on construit des chambres funéraires dans lequel on va mettre les gens importants et on va recouvrir le tout d'un énorme tumulus de terre et de pierre pour le signaler et le protéger.
Alors, il y a une question qui reste ouverte, c'est la question des mots, du langage, des langues parlées. Mmh. Je voudrais vous faire écouter un extrait sonore du fameux film de Jean-Jacques Hano en 1981, La guerre du feu. On va l'écouter brièvement parce que vous allez voir, c'est un peu lassant pour nos oreilles de sapiens postmodernes. Mais vous nous direz un peu si vous retrouvez vos enfants, Jean-Paul Demoulon. On écoute un extrait sonore de La guerre du feu de Jean-Jacques Hano. J'ose à peine dire que c'est en version française. Voilà, alors il s'agit d'une ambiance sonore assez simiesque, si j'ose dire, Jean-Paul Demoulle. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce qu'on peut savoir?
L'originalité du film de Hano, qui a d'ailleurs un rapport assez lointain avec le roman original de Rony Aîné, c'est de s'être entouré d'éthologues, justement, pour que les humains qu'il montre, hein, plutôt néandertalien, le héros, et puis l'héroïne, plutôt sapiens. Donc, c'est entouré d'éthologues, et puis d'avoir demandé à l'écrivain britannique Anthony Burgess de fabriquer un faux langage préhistorique en s'inspirant un peu de racines des langues indo-européennes, par exemple. Mm-hmm. Donne-nous le feu, comme disent les méchants frères à la fin, c'est Do Atra, qui sont deux racines qu'on retrouve dans nos langues européennes.
Alors, est-ce que c'est plausible tout ça? Pourquoi pas? Je vous vois sourire.
Ben, il est certain qu'avec le même cerveau que nous, ils avaient des langages aussi développés que les nôtres. Simplement, effectivement, Sapiens remonte à 300 000 ans, même si on suppose que son cerveau aurait été de plus en plus complexe. Les plus anciennes langues qu'on connaisse, c'est l'égyptien et le sumérien, qui n'ont que 5 000 ans, c'est-à-dire une infime partie de la durée de Sapiens. C'est les langues dites indo-européennes, les plus anciennes qu'on connaît, le hittite, le grec mycénien et le sanskrit, remontent qu'à vers moins 1500 à peu près. Donc, c'est rien du tout. Ils avaient certainement des langages articulés et complexes, mais qui avaient probablement très peu à voir avec ceux que nous connaissons.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui avec l'archéologue préhistorien Jean-Paul Demoulle autour de son livre « La préhistoire en 100 questions ». Notre thème aujourd'hui, les questions sur la préhistoire sont aussi des questions sur nous-mêmes et nous allons aborder, Jean-Paul Demoulle, un moment clé dans l'évolution de notre humanité. Jusqu'à présent, nous sommes arrivés que jusqu'à moins 30, moins 40 000 ans avec Sapiens qui arrive sur notre territoire français. Mais il y a 12 000 ans, s'est produite, étalée sur plusieurs siècles, dites-vous, la révolution néolithique. Alors en quoi a-t-elle consisté, Jean-Paul Demoulle?
Eh bien, la révolution néolithique, c'est l'invention de l'agriculture sédentaire. Jusque-là, les humains sont des chasseurs-cueilleurs. Mmh. 10 000 ans par rapport à 300 000 ans, de la durée de Sapiens, c'est quasiment rien. Pourquoi à ce moment-là? Parce que on est de nouveau dans une période interglaciaire, donc ce dont on a déjà dit, qui émerge il y a à peu près 12 000 ans, et sans doute aussi parce que son cerveau est plus complexe que puisqu'on a les figurations, les représentations il y a 40 000 ans, alors que le précédent interglaciaire, il y a 130 000 ans peut-être, etc. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que c'est la domestication des animaux et des plantes est inventée simultanément dans plusieurs régions du globe. Donc c'est pas une invention.
C'est ce qu'on appelle un moment historique. Ouais,
voilà,
ça devait arriver.
Voilà,
les conditions étaient réunies pour cela.
Pour que ça arrive. Le principe de la domestication est déjà connu puisque les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, pendant la période froide, ont déjà domestiqué le loup pour le transformer en chien. Il y a déjà sans doute 20 000 ans. Donc c'est en principe, ils connaissent. Ils connaissent très bien la nature puisqu'ils sont dedans. Mmh. Et là, ils vont commencer des expérimentations. En ethnologie, on connaît aussi des chasseurs-cueilleurs qui pratiquent une petite horticulture, un petit jardinage, mais ça dépasse pas.
Mais ils se déplacent quand même.
Voilà.
Alors que là, on va se fixer.
Et là, on se fixe. C'est le début du confinement, d'une certaine manière, parce que on est, au lieu d'être dans des tentes nomades et transportables, on est dans des maisons en dur, on est dans des villages d'où on va sortir pour l'essentiel uniquement pour entretenir les champs et faire paître les animaux.
Donc cela, c'était entre il y a 10 000 ou 5 000 ans à peu près.
Oui.
Et vous nous expliquez, Jean-Paul Demoule, que ce moment historique où l'agriculture a pu advenir a fait exploser la démographie humaine. Combien étions-nous sur Terre à cette époque-là ?
On était à peu près, on estime entre 1 et 2 millions d'années
d'humains,
je veux dire.
Sur l'ensemble de la planète.
Sur l'ensemble de la planète, oui. Donc on ne se bousculait
pas. On ne se bousculait pas.
C'était des petits groupes de 30-40 personnes et qui nomadisaient. Mm-hmm. Les chasseuses-cueilleuses qu'on a pu observer par l'ethnographie ont un enfant tous les 3-4 ans. Alors que les agricultrices des sociétés traditionnelles, c'était encore vrai en France au début du XXe siècle, peuvent avoir un enfant tous les ans même.
Parce que la nature est plus clémente. Parce qu'on se nourrit mieux.
On a une nourriture plus sécurisée et puis on ne nomadise plus, on est sédentarisé. Donc tout ça fait qu'en 10 000 ans, c'est-à-dire rien du tout, on va passer de 2 millions à 7 milliards d'humains.
C'est ça. Ça ne s'était jamais vu, évidemment.
Non, évidemment, bien sûr.
Dans l'histoire de l'humanité. Vous écrivez, Jean-Paul Demoule, dans votre livre, donc La Préhistoire en 100 questions chez Talendier, nous sommes passés dès cette époque d'un monde de chasseurs-cueilleurs immergés dans la nature à un monde fondé sur la volonté de dominer la nature. Alors, peut-on formuler ça autrement ? Je vous soumets une autre formulation. Nous serions passés d'un monde de chasseurs-cueilleurs soumis à la nature à un monde fondé sur la volonté d'apprivoiser la nature. Qu'en dites-vous, Jean-Paul Demoule ?
Oui, c'est plus gentil de le dire.
J'ai envie d'être gentil aujourd'hui.
c'est plus gentil de le dire comme ça, effectivement. Après, est-ce que les loups qui sont devenus au bout de 10 000 ans des caniches nains avec des costumes ridicules, est-ce que c'était bien pour eux ou pas ? C'est difficile de le dire. Est-ce que les moutons, l'élevage en batterie, etc., ça n'existait pas quand j'étais enfant ? Maintenant, au contraire, la question du bien-être animal est une question qui se pose de manière aiguë, au moins dans les sociétés occidentales. Donc
vous faites le lien précisément entre cette révolution néolithique et les questions qui se posent aujourd'hui.
Oui, bien sûr, parce que c'est la conséquence directe, si vous voulez. La révolution industrielle et maintenant la révolution numérique n'auraient pas eu lieu sans la révolution néolithique, c'est-à-dire sans le fait de faire exploser la démographie. Mmh. À partir du moment où la démographie explose sur une planète finie, il faudra sans arrêt inventer de nouvelles techniques, la roue, la charrue, les engrais la motorisation, les pesticides. Donc il y a une course au progrès technique continue, on n'a pas le choix. Et donc tout le reste va en découler.
Et en même temps, on peut aussi constater que l'espérance de vie s'est accrue dans des proportions considérables, que la capacité à se soigner également s'est accrue dans des proportions considérables. Quelle balance faites-vous entre les aspects négatifs et les aspects positifs ?
Moi, je ne regrette pas du tout le paléolithique. Sinon, nous ne serions pas en train de parler avec des auditeurs confinés derrière leur poste de radio.
Ils sont loin de nous,
voilà. Je regrette pas du tout, simplement pour le dire...
Mais on arrive au bout, c'est ça ?
C'est-à-dire que pour le dire banalement, de toute l'invention, ça dépend ce qu'on en fait. L'énergie nucléaire peut avoir des applications utile et bénéfique.
L'invention du fer peut créer des structures métalliques et peut aussi créer des armes. Même chose pour le feu, etc.
Donc ça dépend ce qu'on en fait. Il y a des sociétés qui ont beaucoup mieux géré leur environnement. L'Égypte est restée jusqu'à la conquête grecque puis romaine et a bien fonctionné, alors que d'autres sociétés comme la vallée de l'Indus, les Mayas, la Grèce mycénienne, l'Empire Khmer, eux sont allés dans le mur pour avoir mal géré leur environnement.
Ouais, c'est les fameux effondrements.
Oui, c'est les...
Alors, vous décrivez dans votre livre le tableau clinique de l'homme d'Ötzi. Vous savez, c'est un homme qui est mort sur un glacier à la frontière australo-italienne.
Oui.
Il est mort il y a 5300 ans et on l'a retrouvé il y a, je crois, 20 ans.
Oui.
Et donc, on a pu déterminer son dossier médical.
Voilà.
Et donc, vous écrivez, il souffrait de mycoses, de parasites intestinaux, de la maladie de Lyme, de calculs biliaires. Ses poumons étaient encrassés par le travail du cuivre. On se demande si ces tatouages avaient une fonction thérapeutique par rapport à son arthrose, car certains sont placés à des points de l'acupuncture chinoise. Et quand on voit les images de ce corps, c'était vraiment nous-mêmes.
Ben oui, absolument.
C'était nous-mêmes, mais soumis à des conditions de vie difficiles, quand même, d'après ce tableau clinique.
Ben oui, effectivement, parce que le néolithique invente aussi les épidémies, puisque cohabitation forcée avec les animaux, y compris les animaux dits commensaux, comme les rats, leurs puces, etc. Et en plus, avec des travaux difficiles et répétitifs, les travaux des champs, et l'augmentation de la population qui favorise effectivement les épidémies. Et donc, des capacités de médecine encore très embryonnaires. Voilà.
Et puis, il y a aussi cette fameuse question qui est l'un des fils rouges de votre livre.
Oui.
C'est la question de la violence.
Oui.
Et de l'apparition de la violence et de l'apparition des guerres. Est-ce que la violence est consubstantielle à l'espèce humaine? Est-ce qu'elle a coïncidé avec la révolution néolithique? Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Paul de Moule?
Je pense que la violence entre les mâles humains, elle a dû toujours exister.
Entre les mâles?
Les mâles, oui.
Vous êtes clair là-dessus?
Oui, oui. Je pense, même s'il y a aussi des cas de violence féminine, mais enfin, elles sont complètement négligeables, globalement. Et on a quelques preuves archéologiques de massacres très limités, encore chez les chasseurs-cueilleurs, il y a 10-12 000 ans, au Soudan, un autre exemple un peu plus récent, au Kenya, les aborigènes australiens qui avaient un continent pour eux tout seuls et qui n'étaient pas très nombreux faisaient quand même la guerre, notamment pour enlever des femmes.
Donc c'est pas uniquement la surpopulation qui est à l'origine.
Non. Mais avec peu d'humains, c'était limité. Donc j'ai tendance à parler plutôt de vendetta que de guerre. À partir du moment où la population commence à exploser, à se territorialiser et à plus bouger, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à parler de guerre. On constate que les villages, au bout d'un certain temps, s'installent sur des hauteurs, s'entourent de fortifications, que les traces de blessures se multiplient, etc. Donc
c'est humain.
Oui, c'est humain. La violence est sans doute humaine, mais là, elle se systématise.
Alors, on arrive malheureusement bientôt à l'issue de cette conversation. Il y a quand même une question qu'on brûle de vous poser, Jean-Paul de Boulle, puisque vous nous expliquez que nous sommes le fruit d'une évolution buissonnante et permanente depuis très longtemps. Dans quelle mesure continuons-nous à évoluer? Notre espèce évolue-t-elle toujours, Jean-Paul de Moule?
Je pense qu'elle évolue, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'évolution, c'est l'effet de la pression du milieu naturel, la sélection naturelle, qui fait que certains traits sont plus avantageux que d'autres. Mais simplement, on peut commencer à... on a commencé à agir sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avant, les myopes, leur espérance de vie était très réduite.
Eh oui, parce qu'ils ne voyaient pas les proies à chasser.
Les proies, ils ne voyaient pas le danger arriver, etc.
Ouais.
Et maintenant, grâce aux lunettes, les myopes survivent et se reproduisent entre eux. Donc, il y en a de plus en plus.
Ouais.
Et même chose donc pour un certain nombre de... mais cela dit, on a des preuves que des gens handicapés ont été entretenus par le groupe, même à date très ancienne. Maintenant, avec les diagnostics aussi prénataux, etc., on a tendance à intervenir beaucoup plus.
L'humain peut créer l'humain, en quelque sorte.
Oui, absolument.
Et ça, c'est une nouveauté aussi.
Oui, totalement. Mmh. Et on a beau dire qu'on va interdire les manipulations génétiques, je ne pense pas que sur le long terme, on les interdira peut-être pendant encore qu'il n'y ait pas un dictateur fou.
Ça vous paraît inéluctable?
Je le crains, oui. Je suis plutôt optimiste sur l'avenir de l'humanité, mais concernant ce genre de choses, je ne vois pas comment on y échapperait.
Et donc, est-ce que vous constatez une accélération de l'évolution de notre espèce humaine?
Je ne pense pas, non. Non, une accélération des progrès techniques, oui, certainement. Mm-hmm. Mais de l'évolution humaine, c'est difficile de dire. On ne voit pas en quoi on serait plus malin. D'accord. Ou la poésie serait...
Donc ça va s'étaler sur des siècles et sur des millénaires.
Oui, oui, certainement.
Ce n'est
oui.
pas après-demain oui. que notre espèce va muter.
Non, non, ça, non, sûrement pas. Non.
D'accord. Alors peut-être une dernière ou une avant-dernière question avant de nous quitter, Jean-Paul Demoule. Certains, de plus en plus nombreux, sont aujourd'hui adeptes de ce qu'on appelle le créationnisme. Et donc considèrent que tout ce que vous venez nous expliquer pendant une heure n'a pas existé, que ce sont des inventions et que seuls des écrits de type religieux, comme la Bible ou d'autres, peuvent être à la source du regard que nous pouvons porter sur l'évolution humaine. Qu'est-ce que vous dites de cette question-là ?
Il y a deux formes de créationnisme. Il y a la lecture littérale de la Bible, mais que un certain nombre de chrétiens ont relativisé pour intégrer justement les connaissances en termes de préhistoire, comme le père Teilhard de Chardin, déjà il y a longtemps. Et puis il y a ceux qui pensent que néanmoins, effectivement, on pourrait étaler ça dans le temps, mais ce serait l'effet d'un dessin intelligent, intelligent design, qui ferait qu'il y aurait une.
Oui.
Que ce serait.
Il y a eu quelque part une volonté.
Voilà.
Qu'est-ce que vous en dites en tant que scientifique, Jean-Paul Demoule ?
Si je me cantonne strictement au domaine scientifique, moi, je n'ai pas de preuves qui me permettent de le dire. On a tendance forcément à se dire. À dire s'il y a évolution, on est au sommet de cette évolution, donc ça y mène. Si je reste simplement dans mon domaine, l'explication, comme le disait le prix Nobel Jacob, c'est à la fois le hasard et la nécessité.
Oui.
Il peut y avoir aussi une part de hasard dans l'ensemble de l'évolution et sur l'ensemble du système.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Demoule, que vous étiez plutôt optimiste sur l'avenir de l'humanité. C'est pas tout à fait le sentiment que j'ai eu en lisant attentivement votre livre. Vous nous expliquez notamment pourquoi et comment devenue cette espèce humaine orpheline qui a éliminé toutes les autres. Nous sommes aussi cette espèce invasive en passe de provoquer la 6e extension biologique massive. Quel est l'aliment qui nourrit votre optimisme, Jean-Paul Demoule? Ça sera votre dernière parole.
C'est vrai que quand on a tendance à vieillir, on trouve que c'était toujours mieux avant. Il y a un certain nombre d'exemples chez un certain nombre de personnes ou d'intellectuels. C'est pas du tout mon cas. D'une part, et deuxièmement, je ne regrette pas du tout, comme je disais tout à l'heure, ni néolithique ni paléolithique, mais par ailleurs, je constate que Sapiens est une espèce invasive, donc extraordinairement adaptative. Donc,
c'est ça.
Donc peut-être que le réchauffement actuel va provoquer des catastrophes, des millions de morts, etc.
Mais aussi des imaginations, des innovations.
Oui, des innovations et une capacité de toute façon d'adaptation qui est quand même hors pair. Donc ce point de vue-là, si on veut bien oublier quelques horreurs...
L'horizon peut être ouvert.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Écoutez, Jean-Paul Demoule, merci beaucoup pour cette dernière note d'optimisme. Nous avons parcouru avec vous cet itinéraire très très long, très très peut-être vertigineux, tout au long de notre proto-histoire, de notre préhistoire. Je rappelle le titre de votre livre, La préhistoire en 100 questions. C'est publié chez Talendier. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des nombreux livres de Jean-Paul Demoule. Je crois que vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages, Jean-Paul Demoule, sur le site de RCF. Vous pouvez évidemment nous écouter en podcast ou en balado-diffusion, où vous voulez, quand vous voulez. En tout cas, nous vous remercions pour votre fidélité. Je dis aussi un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos, et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci à tous.